Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général, monsieur le préfet, mesdames et messieurs représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs représentants de la force publique, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, mais je devrais dire avant tout, chers collègues, puisque nous sommes tous ici des historiens de la gendarmerie ou d'autres choses, mais des historiens avant tout rassemblés pour ce moment particulier qu'est un colloque, encore plus un colloque international comme celui-ci, qui est le fruit d'une longue préparation, mais d'une longue maturation intellectuelle, et dans le cas de ce colloque international sur la gendarmerie, 13 ans de maturation, puisque cela fait 13 ans que le premier colloque universitaire sur l'histoire de la gendarmerie a eu lieu en 2000. Ce colloque était intitulé « Gendarmerie, État et Société au XIXe siècle ». Son objet était donc plus restreint que celui d'aujourd'hui, mais à la barre, nous avions déjà mon collègue, le professeur Jean-Noël Luc, que j'ai plaisir à saluer, et le général Georges Philippot, que je salue également, qui était alors chef du service historique de la gendarmerie nationale. 3 ans plus tard, en 2003, un second colloque avait été organisé par notre université et par le même service, mais cette fois autour de l'histoire de la gendarmerie au XXe siècle. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous nous sommes rassemblés pour un troisième acte, et un acte qui est doublement inédit, d'abord par sa dimension internationale, et puis, et ça n'est pas anecdotique, par le fait, me dit-on, que est présent parmi nous le premier directeur général de la gendarmerie qui est titulaire en même temps d'une licence d'histoire, ce qui montre bien le rassemblement des uns et des autres autour de cet objet historique. Ces colloques s'inscrivent, vous l'avez rappelé, mon général, dans le cadre d'une convention qui avait été signée en 2000 par la Direction générale de la Gendarmerie nationale et par l'Université Paris-Sorbonne Paris 4. L'objectif de cette convention était de promouvoir la recherche académique sur l'histoire qui était alors, vous l'avez dit, très négligée de la gendarmerie nationale. Je pense que mon université était particulièrement bien placée pour relever le défi et elle l'a été encore plus au cours des années qui ont suivi et il y a là à la fois un rapport de cause et de conséquence. Nous étions déjà orientés vers l'histoire militaire, mais le fait que nous ayons cette convention avec la gendarmerie et que nous l'ayons fait vivre a encore renforcé notre intérêt en la matière. Je rappellerai ici que l'histoire de la défense et de la sécurité constitue depuis longtemps l'un de nos domaines d'excellence et qui se concrétise aujourd'hui dans un potentiel que je rappellerai très brièvement. Un institut d'histoire de la défense et de la sécurité nationale que nous avons baptisé MARS, Marine, Armée, Renseignement, Sécurité, un cursus spécifique autour d'armée, guerre et sécurité dans les sociétés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, répondant ainsi, mon général, à l'attente que vous avez exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire une ouverture sur le présent, mais qui s'ancre dans l'étude du passé, et en même temps, des partenariats et des collaborations avec différentes écoles, des musées, des centres d'études, des trois armes et de la gendarmerie, et enfin 6 à 8 séminaires de recherche et une dizaine de doctorats soutenus par an, ce qui n'est pas rien quand on sait que à Paris-Sorbonne, nous avons à peu près 300 à 350 doctorats soutenus par an dans toutes les matières. Vous voyez donc que l'histoire de la défense constitue un domaine important chez nous. Ce colloque et les manifestations que j'ai rappelées illustrent la fécondité de notre collaboration. Et c'est une collaboration extrêmement concrète. Collaboration d'abord avec l'ancien service historique de la gendarmerie nationale qui a disparu en 2005, malheureusement alors que les chercheurs célébraient son dynamisme et son efficacité pour faciliter l'accès à ce qui est notre pain quotidien, c'est-à-dire les archives. Une autre collaboration, non moins fructueuse, s'est nouée avec une nouvelle société, la Société nationale de l'histoire et du patrimoine de la gendarmerie, qui a pris la succession de la précédente et qui est, me dit-on, non moins dynamique. Ce colloque s'inscrit dans ces collaborations, mais a bénéficié du travail du comité d'organisation, qui a été présidé par vous, monsieur le préfet, Bernard Prévost, ancien ambassadeur, et de l'aide de plusieurs services de la gendarmerie. Et il a aussi reçu un soutien financier de la Direction de la mémoire et du patrimoine des armées, que je remercie sincèrement, ainsi que de plusieurs autres mécènes et parrains, ainsi évidemment que de notre université. Et je voudrais remercier ici nos collègues du Conseil scientifique qui ont accepté de faire une exception au rabotage général que nous avons connu dans nos subventions. Le colloque sur la gendarmerie est le seul qui a bénéficié d'un financement à 100% lors de notre dernière attribution du Fonds d'intervention pour la recherche, car il a été jugé par ce Conseil scientifique, où les historiens sont très minoritaires, que l'intérêt de cette manifestation nécessitait qu'on lui accordât tous les financements qui avaient été demandés. Ce rassemblement, aujourd'hui, et les autres réalisations, sont les fruits d'un chantier de recherche constant, comme je l'ai dit. C'est un chantier qui a été ouvert il y a 13 ans, donc par Jean-Noël Luc, autour du séminaire « Gendarmerie, police, au pluriel, sécurité et défense du 19e siècle à nos jours ». C'est un chantier qui a eu des débuts modestes, avec deux maîtrises au début, dont celle d'Arnaud Hout, que je voudrais ici saluer, puisqu'il a été ensuite auteur d'un doctorat sur le métier de gendarme au 19e siècle, qu'il est aujourd'hui co-organisateur de ce colloque et maître de conférences. C'est un chantier qui a produit en 12 ans 142 mémoires, 14 thèses, 9 colloques ou journées d'études et 19 ouvrages, rien que sur l'histoire de la gendarmerie. Je ne parle pas ici des études de défense qui ont une ouverture beaucoup plus grande. C'est donc un chantier extrêmement productif et un chantier qui n'existerait pas, je voudrais le souligner ici, sans le travail de nos étudiants en master et en doctorat. Il y a là un aspect extrêmement important de la recherche universitaire. La recherche universitaire, c'est certes celle des professeurs, des maîtres de conférences, des chercheurs, mais dont c'est le métier, mais cette recherche n'existerait pas sans l'appui de tous ces masters, de tous ces doctorats, qui sont des recherches plus ponctuelles et qui s'inscrivent dans ce cadre beaucoup plus général et que nous reconnaissons à tous les sens du terme. Je n'oublie pas tous ceux qui sont ici, des chercheurs jeunes ou chevronnés venus avec difficulté, nous le savons, de 19 pays différents. Et je n'oublie pas les membres du comité scientifique et les présidents de séance, puisqu'ils sont issus, au moins dans le programme, parce que malheureusement les avions fonctionnent comme ils peuvent fonctionner et les trains aussi, mais en tout cas dans le programme, nous avons 21 universités différentes et 15 pays, allant de Buenos Aires à Louvain, en passant par Ouagadougou et Moscou. Nous faisons très très large. Je les remercie, je vous remercie tous d'avoir répondu aux sollicitations du comité d'organisation, parce que cela donne à ce colloque et à la publication qui suivra certainement toute son envergure et toute son importance. Ce travail était une caution indispensable pour faire en 2 jours, vous l'avez dit mon général en rappelant le programme, un vrai tour du monde des gendarmeries dans 26 pays, du Brésil au Japon. Et puis, il faut se tourner vers l'avenir. Il y a certainement de très nombreuses pistes de l'histoire des gendarmes, des gendarmeries qui sont inexplorées, que vous allez ouvrir, dont vous allez avoir l'idée dans les échanges que vous allez entretenir dans et autour de ce colloque. Encore faut-il, et c'est là un souhait que je forme, que les archives ne soient pas détruites et qu'elles puissent être facilement consultées. On dit cela, ça paraît très facile, ça ne l'est pas, et c'est un combat permanent, un autre combat que nous devons tous mener. La mémoire n'existe que si elle a des éléments sur quoi s'appuyer, et pas simplement des éléments d'histoire orale, mais des éléments écrits. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec le développement le développement d'immatérialité dans nos modes de fonctionnement, la question des archives se pose, et se posera encore plus. Elle se pose aussi pour la conservation des archives écrites qui peuvent exister, et qui malheureusement sont quelquefois détruites par ignorance et rendant ainsi impossible toute recherche ultérieure. Je m'éloigne ici de la stricte, du strict aspect de la gendarmerie et des gendarmes, mais nous savons tous, en tant qu'historiens, mes collègues savent bien, que un fonds d'archives, on ne sait jamais ce qu'on va y trouver, et il faut le conserver parce qu'on ne sait jamais ce que les générations ultérieures y trouveront. Et le même fonds d'archives pouvant d'ailleurs produire des recherches différentes suivant des approches différentes. C'est tout le rôle et la grandeur de l'histoire, hein, que d'évoluer avec le temps. Mais nos interrogations, qui changent, ont besoin de sources pour pouvoir s'exprimer. Je souhaite donc véritablement que cette question des archives soit résolue. Maintenant, au-delà, nous offrons à Paris-Sorbonne un cadre qui a permis de renforcer les synergies autour de l'apport des sciences humaines et sociales aux études sur la sécurité et la défense, au-delà même du cas des gendarmeries. Ce cadre, c'est ce que l'on appelle, pardonnez cet acronyme, le PRES, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur Sorbonne Université, qui groupe autour de l'Université Paris-Sorbonne une université de droit et d'économie, Paris 2 Panthéon-Assas, une université de sciences et de médecine, Paris 6, l'Université Pierre et Marie Curie, l'INSEA, l'Université technologique de Compiègne et le Muséum national d'histoire naturelle, ainsi qu'un très grand nombre de partenaires associés, dont l'école Saint-Cyr Coëtquidan, l'école des officiers de la gendarmerie nationale et l'école nationale supérieure de la police. Des collaborations existaient et existent encore avec nos amis de l'université Panthéon-Assas, par exemple, dans le cadre d'un master de relations internationales qui a été créé par le professeur Sûr, ou le master sécurité et défense créé par le professeur Gohain, qui sont l'un et l'autre associés à l'organisation de ce colloque. Nous voulons faire beaucoup plus et développer l'approche interdisciplinaire de la sécurité en allant chercher dans ce cadre de Sorbonne Université des partenaires qu'on n'aurait peut-être pas l'idée d'associer à des études sur la défense, mais justement, c'est là où l'université peut beaucoup apporter. Je pense par exemple à l'Institut français de presse ou nos partenaires scientifiques de l'Université Pierre et Marie Curie ou de l'UTC à Compiègne ou encore de l'IRSEM. Il y a là des choses qui se font dans le cadre de nos séminaires, dans le cadre de Mars, et dont je pense que nous verrons des conséquences concrètes à la fois du point de vue de la formation et du point de vue de la recherche dans les toutes prochaines années, parce que nous réfléchissons à une meilleure adaptation de notre offre de master et de doctorat, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, des cadres, des forces de sécurité et de défense, ce qui est aussi une manière de renforcer nos liens, les liens entre l'université, avec un grand U, et les forces vives de la défense. C'est quelque chose auquel je crois profondément et qui est un des axes de l'action de mon équipe à la tête de notre université, c'est que nous pensons que l'université doit jouer un rôle dans le monde contemporain, et pas simplement un rôle de savoir, hein, mais un rôle de réflexion. Curieusement, quand on y réfléchit, pas si curieusement que cela, il y a des causes parfaitement identifiables. Curieusement, en France, l'université, on ne lui demande pas grand-chose quand il s'agit de réfléchir sur le présent, contrairement à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où les universités sont de véritables réservoirs de pensée, des think tanks, pour les politiques ou pour les responsables du monde socio-économique. On peut s'interroger pour savoir pourquoi, dans notre pays, il n'en est pas ainsi. Je pense qu'il y a à la fois des préjugés de la part du monde extérieur, des préjugés aussi de la part des universitaires, et peut-être aussi une certaine timidité de la part des universitaires à se saisir des enjeux du monde contemporain et à donner à l'université le rôle qui doit être le sien d'un réservoir de réflexion et de possibilités de réflexion sur le monde contemporain. Je prendrai ici un exemple que je donne toujours, qui nous éloigne beaucoup de la gendarmerie. Nous avons dans notre université un laboratoire d'excellence, nous en avons plusieurs, labellisés par les initiatives d'excellence l'an dernier. Nous en avons un qui s'intitule « Religion et société dans les mondes méditerranéens ». Ce laboratoire d'excellence est un laboratoire d'histoire qui couvre les périodes allant de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge. On pourrait croire qu'il s'agit là de chercheurs qui sont dans leur monde et qui ne touchent pas aux problématiques contemporaines. C'est faux. Un des axes de réflexion de ce laboratoire, c'est un axe sur la conversion. Religion et société dans le monde méditerranéen. Qu'a signifié, au 1er siècle de notre ère, au 5e siècle, au 10e siècle, de se convertir d'une des grandes religions du bassin méditerranéen, le judaïsme, le christianisme, l'islam, vers une autre de ces religions. Or, des pays entiers ont basculé, durant cette période, d'une religion à une autre. Qu'est-ce que cela a signifié concrètement, du point de vue de l'alimentation, du point de vue de l'habitat, du point de vue des structures sociales? Ces simples questions débouchent immédiatement, vous l'avez compris, sur des comparaisons, sur des réflexions sur le monde contemporain. Et je regrette que lorsqu'il s'agisse de débats sur les religions et les sociétés dans le monde méditerranéen contemporain, on ne fasse pas plus appel à nos spécialistes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge qui ont, à mon avis, des éléments de réflexion extrêmement intéressants à apporter. Je referme cette parenthèse, mais je voudrais en profiter pour dire ainsi que nous avons, je pense, et ce colloque en est un exemple, beaucoup à apporter dans la réflexion sur le monde d'aujourd'hui et pas simplement sur l'histoire. Comme vous le voyez, monsieur le directeur général, je vous rejoins complètement. L'histoire a une utilité, celle d'abord du savoir gratuit, mais elle donne également un sens à l'avenir. En particulier, l'histoire de la gendarmerie et de ses personnels. Je vous rejoins aussi dans le fait de saluer non seulement l'institution, mais ceux qui la composent. Histoire dont ce colloque montre, une fois encore, je pense, la grande vitalité. J'espère que ce colloque sera suivi, peut-être pas d'autres colloques, mais en tout cas d'une publication et de nouvelles recherches. Je suis sûr que ces deux jours porteront beaucoup de fruits. Je vous remercie, les organisateurs, de l'avoir mis en place, et vous tous d'y participer. Merci.